Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Son cinéma, le cinéma de Shyam Benegal, comporte peu de héros et beaucoup d'héroïnes. L'Inde est un pays où les femmes sont contraintes d'être fortes. D'où des sujets, des scénarios qui sont une peinture féroce de la société, les propriétaires terriens qui ont le pouvoir et en abusent, le peuple exploité, les femmes victimes des violences. Un cinéma pour autant qui met en valeur l'ambiguïté dans les rapports de violence et de soumission, dans les rapports amoureux. Le sens de l'épopée, de la fresque. Mardi du cinéma, première diffusion sur France Culture le 26 janvier 1988.
Les mardis du cinéma. Shyam Benegal par Françoise Esteb et Mireille Kroos. Avec Shyam Benegal, traduit par Jean-François Cornu, Dominique Jules, Vijay Singh.
Well, the reason I make films, if I were to make it as precise as possible, I would say.
La raison pour laquelle je fais des films, pour être aussi précis que possible, je dirais que cette raison, c'est de rendre compte de l'accélération du rythme de la vie. Les étapes du changement. C'est ce qu'il y a de plus important, ces étapes du changement. Car sans ces changements, la vie n'existerait pas. Il n'y aurait rien du tout. Tout serait inerte. Tout ne serait que matière.
Le cinéma indien produit environ 900 films par an actuellement, et Shyam Benegal est dans cette très large industrie, très florissante industrie, l'un des quelques auteurs indiens.
Dominique Jules
est en même temps un très grand cinéaste, apprécié des cinéphiles les plus exigeants, et en même temps quelqu'un qui sait atteindre un public extrêmement large. Il a trouvé d'emblée un style à la fois profond et populaire. Son thème essentiel, c'est les changements sociaux. Chacun de ses films essaie de pointer une société en pleine évolution, en pleine transformation. Il s'est intéressé plusieurs fois à des situations féodales qui sont atteintes par une révolte et donc une prise de conscience populaire.
Il semble qu'à la base de tous les films de Shyam Benegal, il y ait une révolte. Révolte contre l'injustice sociale, révolte contre l'injustice du destin humain.
Alors, employer le mot de révolte, oui. Quand j'étais jeune, je dirais que oui. Oui, je me sentais concerné par ça, par la révolte. Mais ce que je voulais dire à cette époque-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, ce n'est pas tant la révolte que le changement. Parce que lorsqu'on est dans une situation où rien ne change, on est opprimé. Tout est dans le changement. Je m'efforce toujours de repérer ce changement, à quelque niveau que ce soit. Ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau politique, ça peut même être au niveau psychologique. Ça peut être un changement dans les relations entre les gens. Ça peut être un changement intérieur au sein d'une personne. Alors je m'intéresse donc beaucoup à ces changements. J'essaie de les repérer. D'une certaine manière, si je me demandais, voyons, qu'est-ce que j'essaie de repérer ? Pourquoi est-ce que je fais des films ? La réponse pourrait être, c'est comme quand un arbre, au cours de la journée, l'arbre fait une ombre à cause du soleil. Des fois, l'ombre est longue, et puis elle diminue, et elle s'allonge à nouveau. Seulement, on ne la voit jamais bouger. Eh bien, c'est de ce mouvement que je veux parler. Les mouvements sociaux ressemblent beaucoup à ce genre de mouvement. On ne les remarque pas vraiment. Mais ce qu'on remarque, ce sont les situations qui ont changé. Ce que je veux repérer, c'est donc ce processus. Et pour moi, c'est ça le cinéma. Le cinéma est capable de vous faire accéder à ce processus.
जी और मोती को बराबर बराबर के वोट मिले हैं सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक दोनों नामों की पर्चियां डालकर एक नाम निकालना पड़ेगा मुल्ला वो कागज ले इस गांव के दूध उत्पादक सहकारी मंडली के नए प्रमुख हैं मोती
Si on dit, par exemple, si la nouvelle vague dans le sens du cinéma poétique est un peu différent de ce qui était les mélodrames musicaux indiens et surtout le cinéma commercial, le premier changement, c'était Chatterjee Ray dans les années 50. Et après Ray, il y a eu une espèce d'un grand fossé où personne n'a pris la place, sauf à côté, il y avait un grand cinéaste, je crois aussi grand dans les meilleurs de ses films, que Ray, qui s'appelle Ritwik Ghatak.
Vijay Singh.
La deuxième personne qui soit connue la fin des années 60, c'était Mrinal Sen, avec Calcutta et avec ses premiers films qu'on maintenant on connaît ici à Paris. Mais la troisième personne, qui est Shyam Benegal, il a fait une espèce d'une presque une mini-révolution cinématographique en Inde, pour une raison très simple, que il était la première personne qui a trouvé les aspects du cinéma, du bon cinéma, du cinéma d'auteur, et les aspects du cinéma commercial, les a mélangés, et la symbiose qui était une espèce d'un succès commercial pour la première fois. Alors qu'est-ce que Shyam Benegal tout d'abord a fait ? Début des années 70, c'était pour nous en Inde, c'était notre 68. C'était le mouvement Mao, très fort, agitation au Bengale, au Punjab, en Andhra Pradesh, et qui a changé les sensibilités des gens. Par exemple, dans l'Inde des élites, on ne parlait pas des gens des couches populaires, de promiscuités sexuelles, de tout ce genre de choses qui sont aujourd'hui, qui passent sous le signe de libertaire, de libération. Et ça, on a commencé à parler à cette époque, et 3 ou 4 ans après que le mouvement était réprimé, passé, un peu dépassé par Madame Gandhi, le cinéma et d'autres formes d'art indien ont pris le rythme avec la réalité. Et Shyam Benegal, c'est une des premières manifestations de ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Tout d'abord, les scénarios ont changé. ça reflétait un peu les inégalités, les problèmes de la société indienne, l'oppression de femmes, le royaume des riches, la misère des pauvres. Alors tout ça, ça commençait à rentrer, mais pas d'une manière brusque, brutale, grotesque, mais d'une manière poétique. La deuxième chose, en même temps, avec le changement des sujets, c'était aussi le changement des caractères. Les grands acteurs, les stars du cinéma de Bombay sont changés. Pour une fois, elles étaient jetées dehors. À cette époque, c'était Amitabh Bachchan. Sinon, les gens d'avant, c'était Raj Kapoor, c'était Dilip Kumar. C'était vraiment le Marlon Brando et les grands acteurs d'Hollywood. Mais cette fois-ci, Shyam Benegal a commencé vraiment la recherche des personnes pas connues ou peu connues. Alors, tout d'abord, il a trouvé des filles très belles. Et ça, c'était aussi une révolution parce que jamais on n'aurait osé voir les peaux qu'on aime bien à Paris aujourd'hui, sombres, les yeux noirs, tout. Et parce qu'en Inde, ils considèrent, par exemple, dans mes régions, si on est un peu clair, ils disent, ah, tiens, on dit, elle est blanche comme une vache. Alors, c'est considéré, elle est vraiment belle ou quoi. Alors, les gens comme Smita Patil, Shabana Azmi, Dipti Naval, les gens, les actrices qui étaient vraiment sombres, qui avaient des traits du monde rural plutôt. Alors, ces gens-là sont rentrés et qui étaient évidemment assez doués pour être des bons acteurs ou actrices. Et en même temps, il a trouvé, par exemple, Om Puri. Om Puri, c'est... Pas de loin, il n'est pas beau du tout. Il a des taches sur son visage, mais c'est un bon acteur et il a la capacité de passer les expériences du monde rustique, rural, un peu loin du monde d'élite. Et en même temps, Nasiruddin Shah, ce qu'on appelle le meilleur acteur en Inde aujourd'hui, c'est la même chose pour lui. Alors donc, la première chose, c'était le nouveau sujet. La deuxième chose, c'était le nouveau scénario. La troisième chose, c'était le nouveau visage, acteur. Et la troisième, ce qui était, ça c'était aussi très important, c'était le mélange était très bien. Il n'a pas vraiment révolté contre tout ce qui était le cinéma des formules, le cinéma commercial. Mais il a presque comme un voleur, il a volé les meilleures choses à ce cinéma et les a mis d'une bonne manière dans le cinéma d'auteur. Par exemple, des chansons. Alors ça a commencé à marcher. Et c'est le premier succès du cinéma parallèle en Inde, c'est Shyam Benegal.
Vous parlez donc de l'évolution de votre pays et vous avez vécu, adolescent, l'accession à l'indépendance de votre pays. Vous avez vécu des événements très importants, notamment dans la région d'Hyderabad, dont vous êtes originaire. Vous avez vécu un affrontement très violent entre des paysans. Il y a eu une révolte paysanne qui a été très durement réprimée par l'armée. Alors, est-ce que ces événements vous ont marqué? Est-ce qu'ils ont influé sur votre vision du monde?
Absolutely. They all had a very strong influence because you see, I think.
Oui, tout à fait. Tout cela a eu une énorme influence sur moi. Car vous savez, je pense que plusieurs des événements qui se sont produits dans mon enfance, quand je grandissais, non seulement il y avait, si vous voulez, l'indépendance de l'Inde, sans aucun doute. Mais ça, c'est un événement qui a touché tout le monde sur le même plan. Mais je crois que j'ai été aussi très marqué par le mouvement des Telangana. C'est la révolte paysanne qui eut lieu dans cette région et qui dura près de 5 ans. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué très profondément. Parce que ça s'est produit sous mes yeux, et je voyais pourquoi ça se produisait. Avant, on vivait une situation excessivement féodale. C'est le changement, l'abandon du féodalisme qui se produisait. Et ça, ça se produisait, j'observais tout ça en témoin, si on veut. Cela a donc eu une influence considérable sur ma façon de voir, car je me souviens très bien de l'attitude des paysans, avant et après. Ça m'a évidemment beaucoup marqué. C'est sans doute pour ça que j'ai fait 3 films qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport avec cette situation. Dans mes 2 premiers films, je parlais de situations qui ont conduit à la révolte paysanne de Telangana.
Lakshmi?
Ankur, la graine. Cham Benegal, 1974.
Lakshmi?
Ji, sarkar?
Ye pump kiska hai?
Aap hi ka hai, sarkar?
इसका पानी कौन इस्तेमाल कर रहा है
आप ही के रिश्तेदार हैं
मेरा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है
आपको नहीं मालूम सरकार इसके बाजू का खेत उन्हीं का है
सूर्या est un zamindar propriétaire terrien tout puissant qui utilise sa position privilégiée pour séduire Lakshmi sa jeune servante après avoir chassé le mari de celle-ci un pauvre ouvrier agricole sourd muet accusé de vol il parvient à ses fins mais abandonne rapidement la jeune femme, enceinte, dépourvue de toute ressource, pour se marier avec une jeune fille de sa condition. Plus tard, le mari de la servante Lakshmi revient, avec le peu d'argent qu'il a réussi à gagner. Il se réjouit de la maternité de sa femme. Mais lorsqu'il demande à Surya, le maître du travail, celui-ci fouette sauvagement. Lakshmi vient à son secours et crie sa haine au visage du maître. Du film, un jeune garçon jette d'un geste défi une pierre sur la maison du propriétaire terrien. C'est la graine de la révolte contre l'oppression.
On est confronté au problème de pouvoir, de répression, de soumission. Et dans tous les films de Benegal, il y a un lien extrêmement étroit, presque psychanalytique parfois, entre l'exercice du pouvoir et le sexe, tout simplement. Il y a bien sûr dans les films où il est question de société féodale, ces fameux droits de cuissage et manipulation de la femme presque comme un objet. Mais il y a aussi le machisme qui est relié directement à un besoin de pouvoir, donc qui s'exerce à la fois dans le domaine du sexe et qui s'exerce dans le domaine social.
Quand on a une trentaine d'années, que l'on réalise des films publicitaires et des documentaires, est-il évident de s'imposer dans le cinéma indien? Est-ce qu'il a été évident pour vous de faire votre premier film? Est-ce que ça a été facile?
It was doubly difficult for me. Doubly difficult for me, mainly because, you see, where I grew up, there was no film school.
Cham Benegal.
Pour moi, ça a été doublement difficile. Doublement difficile, surtout parce que là où j'ai grandi, il n'y avait pas d'école de cinéma. Alors, avoir l'ambition de devenir réalisateur, même ça, ça n'était qu'un rêve bien lointain. Quand j'étais étudiant, et que mes copains me disaient, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je répondais, je vais faire du cinéma. Personne ne voulait me croire. Mais comment? Où ça? Ils savaient que j'avais un cousin qui faisait du cinéma, Guru Dutt, mais je ne voulais pas travailler avec lui en tant qu'assistant. Je ne voulais travailler avec personne en tant qu'assistant. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à tourner des spots publicitaires, à la fois pour gagner ma vie et pour apprendre à faire du cinéma. J'avais l'habitude du cinéma à cause de tous les films que j'avais vus, et puis mon père avait une caméra 16 mm avec laquelle il faisait des films à la maison. Et puis moi, j'ai fait un film quand j'avais 12 ans, enfin, vous voyez. Mais en grandissant, en faisant des films publicitaires, j'avais toujours en tête de faire un film de fiction. J'avais le scénario de La Graine, je l'avais d'abord écrit sous la forme d'une nouvelle qui a été publiée. Et puis après, j'en ai fait un scénario. Mais ça a été très très difficile. Parce que ce scénario, je suis allé le montrer à presque tous les producteurs de Bombay. Ça a duré 12 ans. C'est seulement après tout ce temps que j'ai eu la possibilité de le tourner. Mais ça, c'est parce que je m'étais fait une réputation de documentariste. C'est seulement parce que j'avais cette réputation de documentariste que quelqu'un a fini par dire « D'accord, vous pouvez tourner cette histoire. » Parce qu'autrement, on me disait « Vous ne ferez jamais ce film. » Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Il y a trois pôles principaux dans vos films. D'une part, la classe possédante, les propriétaires terriens qui ont à la fois le pouvoir et l'argent dont ils abusent, les fameux zamindars. D'autre part, il y a le peuple qui est exploité. Et enfin, intouchable parmi les intouchables, il y a les femmes. Dans tous vos films, vous montrez, vous démontez les mécanismes impitoyables de la société féodale, de l'exploitation de l'homme et de l'exploitation de la femme par l'homme. C'est donc une peinture très féroce de la société indienne, de ses interdits, de ses castes. Et d'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas le rejet de vos traditions ?
Well, you see, when I made these films now, the films you refer to are actually 14 years old, 14, 12
years old. Quand j'ai fait ces films,
now, at that time,
les films dont vous parlez, je les ai faits il y a 14 ans, 14 et 12 ans. À l'époque, je croyais que j'étais convaincu que s'il y avait une chose qui opprimait notre peuple, qui opprimait notre pays, c'était des traditions complètement archaïques. Et il fallait rompre avec ces traditions archaïques. Il était nécessaire de tout abattre avant de pouvoir construire. Mais je dois dire qu'à partir de ça, je remarque moi-même que j'ai assimilé certains éléments inconsciemment et que j'en ai développé d'autres consciemment. C'est-à-dire que tout changement contient une sorte d'ironie. Vous voyez, on ne peut pas. Enfin, tout le processus de destruction, de changement par la destruction, finalement, ça ne marche pas vraiment. C'est ce qu'on trouve dans ces films. Ça ne marche pas toujours. Thank you.
सुख तैयार है नीचे, तुमको हमेशा देर लगेंगी।
वो चम्मा जरा जल्दी करो।
On hésite un petit peu à employer pour Bénégal le terme de réalisme, parce qu'il y a quand même une élaboration, une conception très particulière, une dramaturgie. Et moi, j'ai pensé à un certain moment au néo-réalisme en voyant des films de Bénégal. Mais il y a beaucoup plus d'habileté que... je pensais en particulier à Giuseppe De Santis, parce qu'il a voulu faire passer un message, traiter de transformation à des moments sociaux importants de l'histoire de l'Inde. Donc faire tout cela à travers des histoires très charpentées, très structurées, avec des personnages humains et qui puissent plaire à un public habitué à un cinéma plus conventionnel. Mais il y a quand même beaucoup plus d'habileté, beaucoup plus de finesse que chez De Santis. Je ne sais pas exactement à quoi cela tient. Je pense que c'est quand même à la cohérence, à la chaleur et à la profondeur de ces personnages qui ont peut-être beaucoup plus de chair et qui sont en même temps des marionnettes des mécanismes sociaux, pris dans des mécanismes sociaux, et en même temps des personnages qui ont une volonté très forte, sinon de s'en sortir, du moins d'exister.
I consider myself, or I would hope to consider myself, as being realist, not either optimist or pessimist. I'm not
sure what I mean by that. Du moins, j'espère pouvoir me considérer comme quelqu'un de réaliste, ni optimiste ni pessimiste, car il y a la société et les individus. Et la société et les individus, ce n'est pas toujours la même chose. Entre la société et un individu, enfin, les rêves d'un individu se heurtent souvent à la réalité sociale ou aux ambitions sociales. Si d'une part on dit par exemple que les choses changent à l'échelle de la société, la destruction des vieilles oppressions par exemple, il se peut qu'au niveau de l'individu, ça ne soit pas toujours le cas. Alors il y a donc toujours un déséquilibre permanent. Et alors l'idéal des hommes a toujours été d'annuler ce déséquilibre. Il ne s'agit pas seulement de changer la société, il s'agit aussi de changer l'homme. Et ces deux choses sont parfois incompatibles. Voilà quelque chose qui attire mon attention en permanence, car c'est quelque chose qui m'importe en tant qu'individu vivant dans la société.
Nishant, l'aube, Cham Bénégal, 1975.
Le film s'appuie sur un événement authentique qui survint en 1945 dans un village de type féodal. Les quatre frères d'une riche famille de propriétaires terriens, des zamindars, contrôlent et dominent la population, pratiquement asservie corps et âme. Un nouvel instituteur vint s'installer avec sa femme et son enfant.
Sa femme intéresse l'un des frères, qui l'enlève pour la violer et la séquestrer.
Thank you.
police refuse d'intervenir. Le prêtre conseille à l'instituteur de renoncer à la lutte. La jeune femme, devenue la propriété commune des frères, se résigne peu à peu, après une longue période de désespoir. Elle finit même par s'attacher à son ravisseur, se croyant oubliée de son mari.
Révoltée par la passivité des autorités locales, l'instituteur éveille peu à peu la conscience des villageois. Le jour de la fête du village, la procession traditionnelle qui conduit la population du temple à la maison des Zamindar pour y recueillir leurs bénédictions tourne à l'émeute et au massacre. La femme de l'instituteur fuit en compagnie de son ravisseur. Ils sont cernés par la foule en furie qui resserre son étreinte mortelle.
À propos de cette fin, il disait que lorsqu'il y a insurrection populaire, on ne sait plus distinguer le bien du mal. Et effectivement, même si on pouvait s'expliquer donc, pourquoi ce couple-là se trouve complètement coincé, ça ne changerait rien parce qu'il n'y a plus de notion morale comme il y a dans une vie plus quotidienne. Il y a là un dépassement des limites, un excès qui est insurmontable. Lors de sa première sortie, le film n'avait pas eu de gros succès, tout simplement parce que à la fin... La femme de l'instituteur séquestrée et qui était devenue sympathique au public était condamnée.
Vous avez le sens de l'épopée des grandes fresques.
Yes, but then I have been very interested in the epic concept.
Oui, la notion d'épopée m'intéresse beaucoup. Enfin, ce que j'entends par épopée, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. À savoir que chaque être humain représente l'histoire. Pas seulement son histoire, mais d'une certaine manière l'histoire de l'humanité. Ça, c'est une épopée.
And therefore, I'm very fascinated by this.
Alors
aspect,
ça, c'est un aspect qui me fascine énormément.
Qu'on
puisse rassembler en soi sa propre histoire et celle de tous les autres hommes, celle de l'humanité. Alors ça, c'est quand évidemment, quand on commence, imaginez que ça c'est votre graine. Et cette graine, que ça vous plaise ou non, va devenir un arbre immense, avec beaucoup, beaucoup de branches. Ça, c'est quelque chose d'épique.
Il y a toujours une part informative, une part documentaire très forte dans ces films, mais tout cela est complètement englobé dans un traitement très humain. Tout cela devient très, très vivant. Par la touffeur de ces personnages. Oui, c'est peut-être en fait cela qui rend les films de Bénégal beaucoup plus forts que certaines tentatives néo-réalistes, c'est qu'effectivement, il y a une très grande complexité des personnages. Ils n'ont absolument rien de manichéen. Hein. Et ils sont un petit peu imprévisibles.
Oui, justement, on voit cette complexité des rapports entre les êtres et cette complexité dans les relations humaines, parce que, bon, si tous vos films sont donc une peinture sociale, et si la plupart sont très précisément datés, vous montrez, il me semble, surtout l'ambiguïté, une certaine forme d'ambiguïté, ambiguïté dans les rapports de violence et de soumission, ambiguïté dans les rapports amoureux, également, et les choses ne sont jamais très clairement tranchées. Même si vous prenez très nettement position, il y a toujours une marge d'indécision, de flou. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle l'ambiguïté.
Human ambiguities are very fascinating to me and relationships, but mainly because, you see, we have...
Les ambiguïtés humaines me fascinent, ainsi que les rapports humains. C'est surtout parce qu'on a, vous savez, on ne peut pas définir la culture comme quelque chose de tout simple. La culture, c'est très complexe. Et puis il y a tellement de sous-cultures. Il y a des sous-cultures dans les rapports entre les gens. Il y a des traditions de sous-cultures. Alors, ces ambiguïtés qui apparaissent ont beaucoup à voir avec... Vous me donniez l'exemple de l'oppression, par exemple, entre l'oppresseur et l'opprimé. L'opprimé trouve aussi un moyen de préserver son intégrité, de ne pas être complètement détruit, si ça dure un certain temps. Car il trouve un moyen de s'y prendre avec l'oppression. On ne peut pas, je veux dire, sans forcément entrer en conflit avec elle, sans forcément la combattre. Ce sont des domaines qui m'intéressent donc beaucoup. Si ça m'intéresse tant, c'est qu'il y a tant question de la nature humaine. Et s'intéresser à la nature humaine, c'est quelque chose d'universel. Car la vie est si forte que les gens ne se laissent pas détruire. Quelle que soit l'importance de leur oppression, ils trouvent un moyen de composer avec l'oppression. Ça aussi, c'est très intéressant, car il peut s'agir de relations entre hommes et femmes, entre parents et enfants, entre castes, entre le pouvoir politique et ceux qui n'ont pas le pouvoir, et entre les privilégiés et les défavorisés. Alors c'est constamment, vraiment, c'est l'aspect le plus intéressant, à mon avis, dans la société. Alors, traiter ce sujet, c'est que ça devient un domaine de sous-culture, de très forte sous-culture. Vous savez, il y a toujours quelque chose, il y a un aspect que je trouve très savoureux. Entre l'oppresseur et l'opprimé, l'opprimé parodie l'oppresseur.
By parodying the oppressor,
et en parodiant l'oppresseur, l'opprimé trouve un moyen de sauvegarder son intégrité, voyez, de rester lui-même. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas perdre de vue, car cela fait partie de la complexité de la vie. Quels que soient les grands événements qui se produisent, les confrontations, au sein de ces confrontations, les gens se ménagent certaines zones et se créent de petits espaces de sécurité, d'une manière ou d'une autre.
हर ठीक ठाक चल रहा है
हाँ
और स्कूल
तुम कैसे हो
आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे को आपकी नजरों के सामने उठा के ले गए आप उफ तक नहीं किए मेरा बच्चा मेरे से छीन लिया गया मेरा घर मेरा सब कुछ और आप सिर्फ देखते रहे आप पूछ रहे कैसी हो
सच कहता हूं जो कुछ मेरे बस में था मैंने किया पूरी कोशिश की कोई कसर नहीं छोड़ी
कोशिश की खाक कोशिश की किसी से पूछवाए मैं किस हालत में हूं बदमाशों की हवेली में रखे ही बन के रह गई हूं मैं चांबर
हूं कि बस असलू घोरा मेरे साथ भूख लगी आ गए और मैं सोचती रही आज नहीं तो कल तुम आके छुड़ा लेंगे मेरे को, मगर तुमको तो जैसे परवाह ही नहीं, ऊपर से बोलने की कोशिश की, आग लगा दिया था हवेली को, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था हम सबको, मगर तुम मर्द होते तब ना तुमको तो जैसे शर्म ही नहीं है, बस मिल गई क्या।
Parmi les mots que vous dénoncez, également, il y a la lâcheté. Il y a beaucoup de personnages, généralement d'ailleurs des personnages masculins, qui sont très veules.
You see, the one of the main problems in Indian society, certainly, is that whether one likes it or not, because of the social situation.
L'un des principaux problèmes de la société indienne, c'est que, qu'on le veuille ou non, à cause de la situation sociale, à cause de certaines normes qui ont évolué dans les relations entre hommes et femmes, la condition de la femme dans la société est maintenue de telle manière que la femme est dépendante, toujours dépendante, parfois de manière heureuse, parfois de manière malheureuse. Mais cette dépendance est-elle, dans l'esprit des femmes, la personne qui impose cette dépendance n'est pas Dieu, c'est un être humain qui peut disparaître à tout moment. Par conséquent, il se développe une force. C'est très compliqué. Je crois sincèrement que la femme indienne a une certaine force. Une faculté d'adaptation dont l'homme est dépourvu. Il en est dépourvu car, dès le moment où il naît, son univers est clairement défini. C'est-à-dire qu'il peut sortir, il va faire ci, il va faire ça, alors que la femme, elle, ne peut rien faire par elle-même. Si le mari meurt, sa femme n'a plus rien. S'il est parent d'une jeune fille meurt, celle-ci n'a plus rien. Le garçon, lui, aura toujours quelque chose. Alors, à cause de cette situation, les femmes doivent faire preuve d'une grande force. Et souvent, quand je vois le comportement des hommes dans une situation identique, je trouve que l'homme est l'être dont le degré de responsabilité est le plus faible. Il n'est même pas assez responsable pour rester cohérent. Et ça, c'est quelque chose que je méprise, pour être franc. C'est une forme de lâcheté qui est constamment présente dans la vie indienne. Et quand je vois ça, je suis excédé.
Vous êtes extrêmement féministe. Il y a certains propos de vos films, s'ils étaient tenus par des femmes, que l'on considérerait comme absolument inacceptables. Alors très souvent, les personnages de vos films sont, les personnages centraux sont des femmes, ou du moins, si la femme n'est pas le personnage central, c'est le pivot de l'action. Et il semble que non seulement la force dont vous parliez, mais également le courage, la noblesse, la dignité, le sens de la lutte, du combat, toutes ces qualités que l'on a souvent considérées comme masculines, comme viriles, soient chez vous toujours dévolues aux femmes.
You see, I'm taking it on the basis of traditional Indian life. In India,
je me base sur les traditions de la vie en Inde. La femme, la responsabilité qu'elle porte est immense.
Because the woman has to be,
car la femme, en plus d'être obéissante lorsqu'elle est enfant,
when she is small, and when she gets married,
doit, une fois mariée, être celle qui maintient l'unité du foyer.
And this is an immense responsibility.
C'est une responsabilité immense.
And you see, often what happens is responsibility makes the person.
Et souvent, ce qui arrive, you know, c'est que c'est la responsabilité qui façonne l'individu. L'individu devient fort à cause des responsabilités que lui impose son milieu, qu'il contraigne à être fort. On fait donc jouer ce rôle aux femmes on les met dans ce type de situation
they are
où elles sont censées être les dépositaires de la tradition. Elles sont censées assurer la continuité.
Elles
sont censées maintenir l'unité de la famille.
You know, they have all these many responsibilities.
Toutes ces responsabilités leur sont imposées.
And over a period of time, it is
et alors, au bout d'un certain temps, cette situation finit par être acceptée. Cette situation acceptée est en fait une situation d'opprimé. Elle n'est pas sans oppression. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait clair pour moi. C'est ce qui donne leur force aux femmes. Mais on les force à devenir fortes.
You know, a pressure on women to be strong.
Les femmes sont contraintes d'être fortes. C'est un système. Ce système est inégal à cause de cela.
Because of that. And therefore, if there is such a representation in my film, it is
alors,
mainly because
si l'on trouve une telle représentation
so
dans mes films, c'est seulement parce que c'est comme ça dans la vie.
But we have a lot of
vous savez, nous avons très peu de héros,
and we
mais nous avons beaucoup d'héroïnes.
Teddy! You panchi kon hai? Yahi
se wadla bitta kehte
hain. Kya?
Wadla bitta.
Well, I must say that a lot of women agree with me. I don't think so many men agree.
Il y a beaucoup de femmes qui sont d'accord avec moi. Mais je ne pense pas qu'autant d'hommes soient d'accord avec moi. Ça, c'est l'un de mes problèmes.
Manthan, le barattage, Shyam Benegal, 1976. Le financement du barattage est original. 500 000 fermiers de l'état du Gujarat, à l'ouest de l'Inde, ont apporté 2 roupies chacun, l'équivalent d'un franc français. La souscription a couvert la production du film, un film qui parle des fermiers eux-mêmes.
Une équipe de fonctionnaires sous la conduite du docteur Rao, vétérinaire, est envoyé dans un petit village pour y installer une coopérative laitière. La demande émane du chef du village, qui espère renforcer son pouvoir, mais inquiète fortement Mishraji, qui collectait le lait depuis des années et le payait à prix dérisoire. La confrontation s'annonce délicate. Le docteur Rao s'emploie à mobiliser autour du projet la caste des intouchables. Il y réussit peu à peu, malgré plusieurs accrochages et reculs. Et c'est un intouchable qui est élu président de la coopérative. Le chef du village en conçoit un tel dépit qu'il s'allie à Mishraji. Calomnie, chantage, sabotage, les deux hommes ne reculent devant rien.
Ils vont jusqu'à incendier les huttes des intouchables et parviennent finalement à faire rappeler en ville l'équipe gouvernementale. Le docteur Rao confie sa charge à un intouchable, Bhula, leader naturel intraitable, qui reprend le flambeau. La lutte continue.
Le titre fait référence, bien sûr, à la fabrication du lait et symboliquement à l'agitation sociale, mais aussi au long et laborieux processus qui, selon la mythologie hindoue, fit passer le monde du chaos à l'harmonie.
Ah. Voilà.
Ce film-là, plus particulièrement, donc, a beaucoup, beaucoup circulé. Il expliquait que ce film a été tourné il y a 11 ans et qu'il continue d'être tiré chaque année une centaine de copies qui circulent partout, qui servent aussi à des animateurs ruraux.
Dominique Jules.
Et donc là, pour ce film-là, il est clairement défini qu'il peut y avoir un rôle d'impulsion, de stimulation.
Vous savez, l'Inde a 16 langues différentes. On dit en Inde que tous les 7 kilomètres, le goût de l'eau, de pluie change, et tous les 10 kilomètres, le dialecte change. Alors vous voyez, c'est une surface de milliers et de milliers de kilomètres, combien de dialectes il y en a. Alors il a choisi évidemment la langue la plus populaire de l'Inde, qui est Hindi, parce que ça lui donnera aussi une audience à une grande partie du pays. Mais en même temps, comme le film, comme Talisman, tout ça conduira, et Anugram, il a tourné deux ou trois films dans d'autres langues.
Et aussi ce naturel dans la façon dont les personnages bougent, et c'est aussi certainement lié au fait que le personnage est toujours mis en relation avec son cadre de vie, avec son environnement.
Yes, but this is a very important aspect for me in cinema.
Shyam Benegal.
Oui, pour moi, c'est un aspect très important du cinéma. Les acteurs et leur environnement ne doivent jamais avoir l'air de ne pas être à leur place. Pour arriver à ça, au début, je passais énormément de temps avec Shabana Azmi pour La Graine. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emmenée là-bas, au village, et je la faisais s'asseoir par terre, tout le temps. Elle était habillée comme son personnage. Elle mangeait par terre, pas à table, comme le reste de l'équipe. Il fallait qu'elle s'assoie par terre, qu'elle fasse tout comme si elle habitait dans le village. Il fallait qu'elle y vive pendant au moins deux semaines avant qu'on commence vraiment le tournage. Et c'est depuis, je procède toujours comme ça. Quand j'ai tourné le baratage, tous mes acteurs et actrices devaient garder leurs costumes du matin au soir, même s'ils ne travaillaient pas. Ils sont tous comme ça. L'un d'eux, Nasiruddin Shah, qui joue le rôle de Bola dans le film, c'est un très grand acteur. Il est excellent. Lui, il a gardé son costume pendant un mois entier. Il ne s'est jamais changé. Il sentait drôlement mauvais, mais il disait que c'était indispensable. Alors il est resté comme ça. Nous, on ne voulait plus qu'il s'approche de nous.
Il y a aussi certainement quelque chose qui rapproche beaucoup de, à la fois du néoréalisme et de la nouvelle vague, c'est-à-dire le fait de tourner complètement en décor naturel. Enfin, je ne crois pas que Bénégal tourne jamais en studio. Il va toujours sur les lieux de ses récits. C'est l'homme dans son environnement. Et c'est vrai que ça, il faudrait l'étudier de près, au plan par plan, mais il y a une façon de... Il ne cadre jamais en très gros plan. Ça, c'est quelque chose qu'il refuse complètement. Mais par contre, il cadre toujours les gens assez... Enfin, ces personnages assez serrés. Il y a assez peu de plans d'ensemble ou de plans d'ensemble assez longs.
You see, basically, I have only one simple principle. It's not a theory.
Bon, en gros, je n'ai qu'un principe. Et il est simple. Ce n'est pas une théorie, ce n'est qu'un principe. L'ordre existant entre l'homme et son environnement, entre un être humain et son environnement, repose sur une certaine relation. Entre un personnage et un autre personnage, il y a aussi une certaine relation. Cette relation peut être une suite de domination ou de soumission. Et chacun de nous a une relation avec son environnement. Chacun trouve une relation avec cet environnement. Ça, c'est une organisation modulaire. Visuellement, c'est une organisation modulaire. Alors moi, j'essaie de conserver cette organisation modulaire entre un être humain et l'environnement, entre un être humain et un autre, en fonction de leur personnalité. Qu'ils soient ceux qu'on agresse ou ceux qui agressent, genre de relation, quoi. Donc, dans mon emploi des focales, dans ma façon de tourner, j'ai toujours cette notion en tête. Pour moi, c'est très important. Je n'aime pas déformer tout ça, tout d'un coup. Car quand on déforme comme ça, on se rend coupable de semer le trouble chez les gens, de mystifier les gens, sans raison. Parce qu'à ce moment-là, vous les amenez à observer votre technique. C'est comme un tapis. Je suis convaincu que quand vous regardez un tapis, c'est seulement lorsque le tapis vous fascine que vous pouvez le retourner et en regarder la trame. Mais moi, je n'aime pas leur montrer la trame. Si je leur montrais la trame, c'est que le motif ne serait pas très intéressant.
సముద్ర తరంగాలు అనవరతం ఒకే ఒక్క పేరును స్మరిస్తాయి అతడు అప్పికొండ స్వామి ఆయన సిద్ధుడు చిరంజీవి అని జనులు నమ్ముతారు సాగర తీరాన ఉన్న గుహల్లో తరతరాలుగా జీవిస్తున్నాడు
కొందూరా అనుగ్రహం వరం కరుణిస్తాడు Parashuram, un jeune brahman, vient de se marier. À la suite d'une querelle, il quitte sa famille avec l'intention de vivre sa vie. En chemin, un légendaire sage de la mer lui apparaît, lui confie une racine magique et le renvoie vers les siens. Sous réserve d'une stricte chasteté, Parashuram est ainsi investi d'un pouvoir magique.
Parashuram,
appelé chaque nuit au temple par des cloches qu'il est seul à entendre, il a une autre vision. La déesse Devi lui apparaît sous les traits de sa propre femme, Anasuya. Bénégal nous montre un prêtre brahmane au désir sexuel refoulé qui fantasme sur les conquêtes sexuelles de la nièce du propriétaire terrien et dans le même temps élève sa femme au rang de déesse. Dans son ardeur maladroite à faire le bien, il déclenche une série de catastrophes qui culminent avec le suicide de sa femme. La raison du brahmane vacille.
The film is dealing with certain questions, certain moral questions, certain questions of faith and belief. It is also somewhere.
Oui, ce film aborde certaines questions, certains problèmes moraux, des questions de foi et de croyance. Dans le talisman, le problème, c'est qu'il y a une série de contradictions, n'est-ce pas? La première de ces contradictions, c'est que la vie est un concept de fertilité.
And here, the boon that
et dans le film,
given,
le talisman qui est offert
est
une racine qui détruit la fertilité des femmes.
You know, that's the first contradiction.
Alors ça, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction, c'est que pour que ce talisman existe vraiment,
he is not to sleep with
his l'homme wife. N'a pas le droit de coucher avec sa
and
femme.
If he does not sleep with his wife, his
et s'il
wife
ne couche
becomes
pas avec sa femme,
the mother.
Celle-ci deviendra la mère.
And if his wife becomes the mother,
et en devenant la mère,
in other words, she becomes
ça revient à dire qu'elle devient la déesse.
And the mother, in,
et alors la mère,
Hindu
dans
thinking,
la pensée hindoue, c'est la Shakti.
And Shakti is a, you know, it is like the
la Shakti, c'est comme la terre.
It is the entire earth,
c'est la terre entière,
constituante. And, but earth is fertile.
Seulement la terre, c'est la fertilité.
But in India, we have another aspect, which
en
is,
Inde,
which I think
nous avons une autre notion, qui est, je crois, l'un des aspects qui a permis de préserver l'unité de l'Inde. Pendant
and
de nombreux siècles.
The concept of bhakti.
Il s'agit du concept de
that
la bhakti.
In your faith,
c'est-à-dire
you
que dans votre foi,
maker,
entre vous et votre créateur,
infinite,
entre vous et l'infini,
there is else.
Il n'y a personne d'autre.
You see? But he brings somebody else.
Mais lui, il fait intervenir
wants,
quelqu'un.
He,
dans la foi, il ne peut y avoir aucun intermédiaire. Elle ne nécessite aucune
you
interprétation.
The creation of the
alors, par exemple, la création de la déesse dans son esprit, à lui, à partir de sa femme,
you know, he,
c'est contre nature.
Samrajyam bhojyam swarajyam vairajyam parameshtigam rajyam maharajyam adhipachyam om sarvamangala mangalye shive sarvardha sadike saranye trembake devi.
En ce qui le concerne, il est à la recherche de la vérité. Parsharama cherche la vérité. Seulement, la vérité est en lui, elle ne l'a jamais quitté. Vous voyez, c'est ça qu'il a oublié. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Il y a dès qu'on perd le contact direct avec quelque chose ou dans une relation, si vous perdez ce contact direct, vous perdez tout.
Thank you.
music director Vanraj Bhatia has been working with me ever since he came back from Paris.
Le compositeur de mes musiques, Vanraj Bhatia, travaille avec moi depuis le jour où il est revenu de Paris. Là-bas, il avait été élève de Nadia Boulanger. Il a passé 12 ans à Paris. Il est revenu en Inde en 1961 et depuis, il a composé les musiques de presque tous mes films, y compris les films publicitaires, les documentaires et tous mes longs métrages. Il est avec moi depuis le début et il va rester avec moi parce que c'est un merveilleux compositeur. Et puis alors mon chef opérateur, lui il a travaillé avec moi pendant très longtemps. Et maintenant il est passé à la réalisation. C'est un très bon réalisateur. Alors maintenant j'ai un autre chef opérateur, très bon lui aussi, mais le premier a travaillé avec moi pendant des années, pendant 16 ans. Et je travaille avec le même monteur depuis 28 ans, toujours le même. Alors mon équipe est toujours à peu près la même. Ils ont toujours travaillé avec moi. Pour les acteurs et les actrices, c'est pareil. C'est un peu comme une troupe, si on veut, une troupe de répertoire. Mais j'ai toujours de nouveaux acteurs qui arrivent régulièrement.
Arohan, l'ascension, Sham Benegal, 1982. À travers le personnage d'Ari Mandal, métayer spolié de ses droits par un riche propriétaire qui vit loin de ses terres, Benegal dénonce les privilèges, l'injustice et le climat de pression et de violence qui les entretient. La paupérisation des paysans entraîne vers Calcutta la famille et les amis de Hari Mandal et les voue à une exploitation éhontée, à la prostitution, à la prison, à la mort. Aspirés par le rêve citadin, ils sont broyés par la misère. La jeune Panchi est attirée à Calcutta par un étranger pour être livrée au bon plaisir d'un homme d'affaires qui en fait momentanément sa maîtresse. Lorsqu'elle sera enceinte, il la contraint à se faire avorter, puis la chasse. Jetée à la rue, Panchi sombre dans la folie. Une nuit d'orage, Kali Doshi, la mère de Panchi, servante à Calcutta, entend des cris. Elle voit une silhouette éperdue, poursuivie par des gamins des rues qui lui jettent des pierres. Elle reconnaît sa fille Panchi, qui, elle, ne la reconnaît plus et s'égare dans la ville. Kali Doshi meurt de savoir sa fille perdue.
Kali Doshi. Sunie. Oji Sunie.
Solitaire et farouchement déterminé, Hari Mandal demeure dans son village et lutte pour reconquérir ses droits. 10 années d'efforts et d'affrontements lui permettent de les récupérer. Au sentiment de révolte qui le porte, s'ajoute une prise de conscience politique. il est résolu à continuer la lutte.
Financement assez particulier, bon, par exemple le barattage, qui est une expérience tout à fait exceptionnelle.
There are three films like that. Manthan was produced.
J'ai fait trois films comme ça. Le barattage a été produit par. En fait, les producteurs sont un demi-million de fermiers qui ont mis chacun un petit peu d'argent. Et cet argent a été recueilli par leur fédération qui me l'a donné pour faire le film. C'était donc une production assez inhabituelle. Mais il y a aussi deux autres films. L'un d'eux a été produit par l'État du Bengale occidental, c'est l'Ascension. Et puis il y a un film qui a été produit par la coopérative des tisserands. Ça s'appelle La Trame. Ce film-là aussi a été produit comme ça. Il n'y a pas eu de producteur privé indépendant. C'est faisable, mais je crois qu'en Inde, je dois être le seul à avoir fait des films comme ça. À part un jeune réalisateur, John Abraham, il est mort maintenant, au Kerala, qui a pu produire un film dans la ville, enfin avec les gens de la ville où il habitait. Il a produit son dernier film, Amma, comme ça.
So these are things, but I find that
ça, ce sont des choses que je trouve ça très intéressant. C'est merveilleux. Parce que vous sentez que vos rapports avec ces gens sont tout à fait authentiques et vous êtes confronté à leur expérience.
Soussman, La Trame, 1986, dernier film de Cham Benegal.
Il présente un personnage de tisserand qui, bon, sans parler de ses talents particuliers d'artisan, ne sait pas utiliser, enfin ne sait pas tirer le meilleur bénéfice de son art, se laisse complètement exploiter par des intermédiaires, et puis ne sait pas non plus à l'intérieur de sa famille se faire respecter, tenir son rôle de chef de famille, et ce personnage-là est à la fois irritant et sympathique, on est sans arrêt entre ces deux pôles.
C'est l'histoire de ce qui est essentiellement un énorme problème en Inde. Dans l'industrie traditionnelle, la main-d'œuvre la plus importante est celle des fermiers. Ensuite viennent les tisserands. Les tisserands représentent beaucoup, beaucoup de gens. Ils sont 10 millions.
And 10 million people is a large number of
10 millions, ça fait beaucoup pour des travailleurs qualifiés. Donc, ça pose un énorme problème. par rapport à l'industrialisation. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Doit-on s'en débarrasser ou les garder ? Et comment peut-on les garder ? Alors ça pose un problème, mais ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui date de 100 ans en Inde. Car les attaques que subissent les tisserands, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elles ont commencé avec l'arrivée des premières filatures de coton. C'est là que ça a commencé. Alors, mon film aborde deux aspects. Le premier, c'est celui-ci. Le deuxième aspect, c'est celui de l'artiste. Voyez-vous ? L'artiste, après tout, un tisserand est un artisan, mais c'est aussi un artiste. Et face à la technologie qui arrive, une technologie qu'il ne connaît pas, que va devenir son art ? La plupart des artistes sont dans cette situation. C'est un très grave problème.
My next film, it's not a film project, it really is a project designed for television.
Oui, mon prochain projet, ce n'est pas un film, c'est un projet pour la télévision. C'est un projet énorme, 40 heures, d'après un livre de Jawaharlal Nehru, qui s'appelle « La découverte de l'Inde ». Il couvre environ 3500 ans d'histoire, qui seront ramenés à 40 heures. Il y aura à la fois de la fiction et de documentaire entremêlés pour ce projet. Je travaille dessus depuis 2 ans, et j'en ai encore pour 2 ans et demi avant de le terminer.
Champ-Bénégal, quelle est actuellement votre position par rapport à l'esprit de vos premiers films dans lesquels vous rejetiez totalement la tradition ?
Alors j'ai l'impression que mes idées sont devenues plus précises depuis cette époque. Mes idées sont plus claires qu'au moment où je faisais ces films. À ce moment-là, j'y mettais des émotions beaucoup plus fortes. Mais je pense que dans nos traditions, il y a des aspects, si vous voulez, c'est dans l'application de ces traditions qu'une partie des droits de l'homme a été niée.
Il
se trouve qu'il y a des éléments de cette tradition qui seront sans doute la seule chose qui nous permettra de rester unis. Ça, c'est bien possible. C'est dans mes films plus récents que j'analyse cette autre possibilité. Il ne s'agit plus seulement de tout détruire, car évidemment, il faut se débarrasser des facteurs d'oppression, mais se débarrasser des traditions, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème beaucoup plus grave encore qui se pose. L'essor de la technologie en Inde est si important que si les gens n'ont rien de solide sur quoi s'appuyer, la technologie, ce n'est pas la culture.
Jai Jai Na. un homme de la rupture, comme certains de vos films sociaux auraient pu le faire penser. Il semble qu'au contraire, vous revendiquez une harmonie qui vous rattache à vos traditions, à l'esprit de vos traditions.
It's more like seeing if you drop pebbles or a rock in the water, you create a lot of turmoil.
C'est plutôt comme quand vous faites tomber des cailloux ou un rocher dans l'eau. Vous faites beaucoup de remous. Mais il y a aussi le processus du retour au calme. Il y a tout le processus des rides sur l'eau, de leur dispersion. Et alors, tous les processus fonctionnent comme ça. Ce n'est pas comme si on coupait le tronc d'un arbre. On se retrouve avec deux morceaux qu'on ne pourra plus jamais réunir. Mais ce n'est pas ça la vie. C'est un processus de la réalité, de notre expérience, qui conduit à la mort. Donc cette image que je décrivais, de faire tomber des cailloux dans l'eau, eh bien c'est comme ça que je vois le processus de la vie.
Et vous-même, vous vous sentez en adéquation en tant que créateur avec votre monde intérieur?
I don't think so at all because I feel in many ways quite inadequate.
I think it non, is je ne pense pas. That I continue car à beaucoup d'égards, je me sens plutôt en inadéquation. Je crois que c'est pour ça que je continue à faire des films. Si je me sentais en adéquation, je n'en ferais pas. J'aurais sans doute atteint ce que les bouddhistes appellent le nirvana, si vous voulez. Alors, c'est à cause des imperfections. On a tout le temps ces imperfections à l'esprit. Les êtres humains passent leur temps à bondir d'un bord à l'autre, comme ça. Et au sein de ces mouvements, quelque part, se trouve la réalité, la vérité, le sens. Alors pour découvrir le sens, il faut observer toutes les facettes. Et c'est sans doute ce que je fais.
Cham Bénégal, par Françoise Esteb et Mireille Cros. Avec Cham Bénégal, enregistré au Festival d'Aurillac, Jean-François Cornu, traducteur, Dominique Jules, organisateur du Festival d'Aurillac, Vijay Singh, écrivain, journaliste. Texte lu par Spoutnik Kilambi et Muriel Silan. Mixage, Roland Alagnès, Jean Fèvre, Gérard Servet.
Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 janvier 1988.